Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Je vous souhaite la bienvenue pour cette émission. Ce dimanche 8 mars prochain, ce sera la Journée internationale des droits de la femme. Alors, à cette occasion, j'ai voulu mettre à l'honneur, dans mon émission, une femme, théologienne, protestante, écrivaine, qui a contribué à éclairer des questions éthiques de son époque et qui a étudié la condition féminine contemporaine. Elle est née en avril 1936 à Montpellier et décédée à Paris en avril 1995. 30 ans nous séparent d'elle et il est bon de lui rendre hommage et de la faire à nouveau connaître pour ne surtout pas l'oublier. Cette femme, elle s'appelle France Quéret. L'Institut protestant de théologie de Paris a voulu nous la faire redécouvrir au cours de la journée du 28 novembre dernier qui s'est déroulée à l'Institut protestant de théologie de Paris. Cela a été une journée d'études avec Stéphane Lavignotte, Caroline Boer, Marguerite Léna, Gemma Durand, Olivier Abel, Anne-Cathy Graber, Elisabeth Parmentier, Céline Romer, Claire Déménard, Esther Lenz et Frédéric Rognon. Toute une journée, donc, ce 28 novembre dernier, consacrée à France Quéret, son œuvre, sa pensée et celle notamment de la femme et du féminisme. Alors je vous propose d'écouter un entretien entre David Gonzalez et Caroline Boer, qui a été professeur à l'Institut protestant de théologie de Paris et qui est maintenant secrétaire national à la formation pour l'Église protestante unie de France. Elle a été l'organisatrice de cette journée avec le pasteur Stéphane Lavignotte. Je vous invite à écouter cet entretien, cette interview au sujet de France Quéret. Caroline Boer va nous la présenter, mais cela après une courte pause musicale. Et je vous propose d'écouter Zélie qui nous parle à sa façon de la femme. Et ensuite, nous nous retrouverons juste après.
Je suis une femme, j'ai plein de choses à dire, j'en fais un drame, mais je peux plus mentir. Regarde-moi, j'ai l'air heureuse, juste de ma force pour avoir tout ce que je veux, c'est-à-dire un peu d'estime et de respect. Ouais, 21 piges, j'ai déjà peur d'y rester. Ouais, j'ai peur d'y rester. Je suis une femme, et c'est un drame, faut le dire, faut l'avouer. Peut-être que si tu m'inimes, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Oh, regarde-moi, je suis comme toi, j'ai de la fierté. Mais toi, tu sais pas quel enfer c'est de vivre sa vie comme un combat contre les hommes non éduqués. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen. J'ai rencontré ce gars qui voulait m'expliquer la vie. Dans un domaine que je connaissais mieux, c'est le souci. Donne-moi ta version, te pose pas de questions. Tu risques de faire avancer le monde. En plus il est vexé, oh non. Je passe pour la peste, évidemment. Avoue que tu empestes l'arrogance. Je suis une femme, un peu d'espoir sinon je fane. Un peu d'écoute sinon je chiale. Un peu d'amour sinon je taille. Je suis une femme, un peu d'espoir sinon je fane. Un peu d'écoute sinon je chiale. d'amour, sinon je taille. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser ma haine pour t'entendre me flatter en faux gentleman. Je te vends de faire des efforts quand moi je fais que ça de la naissance à la mort.
Bonjour Caroline Bauer.
Bonjour.
Vous êtes chargée de cours à l'Institut supérieur des études œcuméniques à Paris.
Oui.
Et secrétaire nationale pour la formation des membres de l'Église dans l'Église protestante unie de France.
Exact.
Mais oui. C'est au titre d'organisatrice du colloque sur France Quéré que vous voulez bien nous éclairer. Qui est France Quéré? Comment a commencé son parcours spirituel avant qu'elle soit une grande intellectuelle?
France Quéré est née dans une famille protestante dans la ville de Montpellier. Donc elle a vécu déjà son enfance dans un bain protestant où elle a été au catéchisme. Elle a relaté cette expérience assez brièvement d'ailleurs, mais ça l'a certainement marquée. Après, il est possible qu'elle se posait beaucoup de questions. Elle en a témoigné aussi à cette époque. La rencontre avec un pasteur à l'âge de 14 ans qui lui a fait connaître ses doutes, et la souffrance qu'il portait en lui, parce que ce pasteur avait perdu deux de ses enfants, l'a plongé dans un désarroi qui lui a fait redécouvrir les Écritures, et en particulier en quoi le Christ pouvait être un Christ qui accompagnait la souffrance. Et c'est de là qu'est né son ancrage dans la foi. Après, elle a pris des cours de théologie à Montpellier, mais sa formation principale est littéraire. Elle a fait des études universitaires de lettres qui l'a mené au CAPES et à pouvoir enseigner en littérature au collège.
Dans un article pour ce colloque France Quéré, vous qualifiez cette intellectuelle protestante de théologienne aimante.
Oui. Alors aujourd'hui, je vais revenir un petit peu en arrière. La question que nous portons, je dis nous parce que tout ce travail a été fait avec le théologien Stéphane Lavignotte. Nous avons repris, au départ sans la connaître, la pensée de France Quéré, et nous avons découvert cette figure. Découvert d'abord son histoire en rencontrant son mari, Yves Quéré, et découvert aussi ses ouvrages et ses articles, en nous demandant. Voilà, ça fait 30 ans que France Quéré est décédée. Qu'a-t-elle encore à nous dire aujourd'hui? En quoi peut-elle féconder notre pensée aujourd'hui? Et c'est là que j'embranche sur votre question. C'est pour moi, c'est ma lecture, un sujet qui je trouve, est vraiment très intéressant chez elle. C'est la manière dont elle a articulé son engagement éthique à une exigence de l'amour. Mais un amour qui n'est pas émotionnellement compris comme une attirance de l'autre, mais plutôt une intelligence de la distance qui me sépare de l'autre. L'autre est toujours quelqu'un de profondément autre, et c'est cet entre-deux entre l'autre et moi qui peut se transformer de misère en mystère, dit-elle. Et cette transformation, c'est voilà, l'œuvre de la grâce est là, dans cette façon de faire de l'autre, de la distance entre l'autre et moi, quelque chose qui va nous laisser place à la vie, en fait.
Est-ce que c'est aller trop vite en matière que de dire de France Quéré qu'elle est aujourd'hui utile pour le care, le prendre soin?
Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, car nous sommes en plein travail d'étude. Nous avons travailler à rassembler un certain nombre d'auteurs dans un numéro de la revue Foi et Vie qui va sortir en novembre et qui sera prêt pour la journée France Quéré du 28 novembre. Et puis la journée du 28 novembre, ce sera l'occasion d'ouvrir des questions à plusieurs, autour de personnes qui sont compétentes sur un certain nombre d'axes de sa pensée, pour voir son actualité. Passer directement de son éthique aimante au care, c'est un pas qui est très rapide, probablement trop. En revanche, passer de cette éthique de l'amour à l'écoute de la souffrance, à l'attention à l'autre et au plus petit, Oui, ça c'est un pas qu'elle fait elle-même. Elle ancre cette éthique aimante dans une très grande attention à ce que le plus petit ou le plus faible ou le plus délaissé peut avoir comme message et comme cri ou comme vision d'espérance à porter. Hein, elle le décline de différentes manières.
On peut la découvrir très facilement, je pense, dans Les femmes de l'Évangile, ce livre si agréable, si répandu qu'on peut presque en prêcher les pages. Voulez-vous nous éclairer sur la naissance de ce livre ?
Alors, c'est un livre très intéressant parce que c'est un livre d'exégèse, hein, où elle reprend des textes bibliques et elle va découvrir différents types de fidélité, hein, des différents types de fidélité de ces femmes de la Bible envers le Christ et la manière dont elles ont témoigné de leur fidélité à des degrés très divers. Et c'est évidemment une des lignes qu'elle va porter dans sa pensée, c'est la manière dont la femme a eu une place particulière aux côtés de Jésus-Christ, non seulement pour témoigner de qui était Jésus-Christ, pour l'aider à se révéler. Hein. Elle prend l'exemple, par exemple, de cette femme qui va toucher le vêtement et qui va forcer le Christ à se révéler comme Christ et Sauveur. Et puis, elle va aller jusqu'à faire de Marie une femme annonciatrice du salut. Finalement, les femmes ont alors une place aux côtés des disciples tout à fait exceptionnelle et pas du tout mise en avant à son époque. Donc depuis, il y a eu beaucoup de travaux sur les femmes de l'Évangile. Mais à son époque, c'est tout à fait novateur.
Elle est précurseur. Que proposait-elle comme vision originale du féminisme ?
Alors ça, c'est un très grand débat. C'est un des sujets les plus délicats, d'ailleurs, probablement, dans l'héritage de France Quéré. Parce qu'évidemment, elle écrivait dans des années où le débat féministe était encore très différent d'aujourd'hui. Et même la réalité sociale, la libération des mœurs et des vies sexuelles n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc il y a là un grand pas à faire contextuel pour pouvoir garder ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. C'est un des travaux qui sera fait lors de cette journée France Quéré, où une conférence, une table ronde sera dédiée à ce thème. Et je ne saurais pas encore aujourd'hui vous dire d'avance quelles seront les conclusions. Il y a des points de vue assez variés. Certaines parce que ce sont en l'occurrence des femmes qui ont travaillé sur certains textes de féministes de France Quéré, ne retrouvent plus les éléments du débat d'aujourd'hui et font plutôt de France Quéré une témoin du passé sur la route du féminisme. Mais il y a quand même une interrogation aussi sur quand même aurait-elle quelque chose à dire de plus permanent sur ce thème. Mais là, je n'ai pas la réponse.
Les évangéliques anglo-saxons mettent en avant le complémentarisme. En face, on met facilement l'égalitarisme. Et pour nuancer un peu les choses, on emploie le terme, sous la plume de France Quéré, de différentialisme.
Elle va défendre en même temps... Alors, elle avait une pensée dialectique qui cherchait à ne pas éliminer le caractère quelquefois ambivalent ou contradictoire des propositions, de façon à pouvoir vivre ensemble des dimensions contradictoires d'une relation. Et dans la complémentarité homme-femme, c'est vraiment un sujet qu'elle a essayé d'incarner. Par exemple, elle va effectivement défendre à la fois la différence entre l'homme et la femme et la complémentarité entre l'homme et la femme. Et il faut pour elle les vivre ensemble. Et à la fois, chacun doit reconnaître sa nature, et il peut y avoir beaucoup de discussions sur cette nature masculine et nature féminine qu'elle reconnaît chez l'homme et chez la femme, ou qu'elle distingue chez l'homme et chez la femme, et en même temps chacun à vivre sa vocation, de ce point de vue-là de façon égalitaire, chacun vivant sa vocation propre et étant appelé à vivre ça. Après, on peut discuter de la possibilité de pouvoir effectivement avoir une telle ambition, parce que c'est une femme qui a eu des engagements très variés, très intenses, c'est une femme très passionnée, et elle a elle-même assumé une double vocation, elle le dit clairement, de mère de famille et d'épouse, et d'intellectuelle engagée. Et au prix d'un travail absolument considérable. Et donc elle a pris sur elle beaucoup, certainement, dans cette double vocation, sans penser le rapport de limite à l'addition des vocations. Donc là, on peut effectivement interroger ça. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a essayé de concilier à la fois la complémentarité de l'homme et de la femme, et en même temps la liberté de chacun de pouvoir construire son propre chemin.
Dans son ouvrage « La femme à venir », selon vous, il reste des passages ou des idées qui résonnent encore aujourd'hui ?
Alors, il y aura une table ronde sur la filialité. Et là, c'est peut-être un des sujets sur lequel il y a quelque chose à retenir de ce rapport à la vie que, pour elle, la femme porte. Elle a une attirance pour la vie, dira France Quéré. Et la place de la naissance, cette expérience de la naissance que vit la femme, est vraiment l'incarnation, je dirais, très très concrète de ce rapport immédiat à l'accueil de la vie et à l'accompagnement de son développement. Et ça, c'est une chose intéressante. Je pense qu'il y a des idées qu'elle développe dans La femme à venir. Elle fait une description de la naissance tout à fait, du bouleversement qu'est la naissance d'un enfant, tout à fait impressionnante. Et là, on peut effectivement peut-être garder cette idée. Hein. Mais ça, là encore, je renvoie à notre journée pour en tirer les conclusions. Je ne peux pas les tirer d'avance.
Le colloque France Quéré, c'est le 28 novembre à l'Institut protestant de théologie. Alors, ce n'est peut-être pas juste une recherche de curiosité pour retrouver des archives. Est-ce que France Quéré, dans votre perspective, est capable de nourrir la notion de service aujourd'hui ?
Alors, elle peut, par l'exemple de la femme qu'elle fut déjà, une femme au service de cette vocation de journaliste, elle s'est dite comme ça, journaliste et conférencière, où elle s'est fait tout à tous hein, dans cette mission. Et il est très très frappant dans les travaux que nous avons faits pour réunir des contributeurs, de rencontrer des gens qui l'ont connue et qui ont été très très marqués par sa qualité de présence dans les rencontres. C'était une personne qui rencontrait quelqu'un, et avec cette expression que retiennent les témoins, elle faisait de ses auditeurs des gens plus grands qu'elle. Cette manière qu'elle avait de grandir son interlocuteur et de lui transmettre la conviction qu'il était grand et qu'elle était petite. Ça, c'est tout à fait extraordinaire de cette incarnation qu'elle a vécue, et peut-être une des forces d'ailleurs de France Quéré, ça a été de vivre ce qu'elle défendait. Et il y a une cohérence de sa vie et de sa pensée qui est assez forte. Et là, elle met en œuvre et défend dans ses écrits aussi cette dimension de service qui se fait tout à tous, d'une certaine façon, mais dans la beauté de ce que rapporte ce service. Hein, elle le développe très fortement dans tous ses textes sur la famille, et dans la famille, dans la femme à venir aussi, cette possibilité que la famille se construise grâce à cet engagement de service qui va construire tout un univers de dons réciproques dans l'environnement de la famille, mais alors elle va le défendre aussi pour l'éducation, dans la défense de l'enseignement public. Elle va le vivre aussi, puisqu'elle va être présidente d'une association d'enseignement à distance à domicile pour des personnes handicapées, pour des jeunes qui étaient atteints de handicap. Donc oui, voilà, cette possibilité d'enraciner la confiance en la vie et l'accueil de la vie dans le service mutuel.
Enfin, je vous pose la même question qu'à Stéphane Lavignotte, co-organisateur avec vous du colloque France Quéré. Pourquoi est-elle encore peu connue du grand public, et est-ce qu'elle est un peu plus connue dans le milieu œcuménique dans lequel vous enseignez ?
Alors, elle a été très connue, en tout cas de son vivant, dans le milieu œcuménique, puisqu'elle écrivait autant dans des journaux catholiques que dans des journaux protestants. Et elle était très connue, certainement à sa mort. Il y a eu un certain nombre de colloques tous les 10 ans des anniversaires de son décès, qui ont permis certainement de maintenir sa pensée un peu présente. mais pas suffisamment à nos yeux. À nos yeux, elle est quand même très oubliée, parce qu'elle a aussi justement des côtés qui ont certainement vieilli dans sa pensée, qu'il faut aussi pouvoir clairement décrire. Hein. Il faut faire ce travail d'analyse qui permet de trier l'apport positif que l'on veut garder et puis peut-être des arguments qui aujourd'hui ne tiennent plus. Ce travail n'a pas encore été fait. Et tant que ce travail n'a pas été fait, la transmission est difficile. En fait, la transmission se fait pour les gens qui l'ont connue parce qu'ils en gardent la mémoire. Mais se pose la question de ceux qui ne l'ont pas connue. Comment peut-on la redécouvrir? Et pour ça, il faut replonger dans ses textes. La vivacité de sa plume, la légèreté de sa plume, la vivacité de sa capacité de rencontre a certainement laissé un souvenir tel que d'une certaine manière, je ne dis pas que ces textes étaient inutiles, mais l'analyse des textes est venue en second plan. Il y a un rapport passionnel, certainement, de ceux qui l'ont connu. Il faut passer maintenant à l'étape suivante.
Merci Caroline Bauer.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime.
Nous voilà de retour ensemble, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez en DAB+, ou bien sur nos podcasts, sur radioallianceplus.fr. Vous venez d'entendre la chanson fameuse de Julien Clerc, « Femme, je vous aime ». Et puis, avant cela, vous avez pu avoir l'occasion d'écouter une interview proposée par Regard Protestant, et animé par David Gonzalez et Caroline Bauer, qui nous parlaient de France Kéré. Et puis, une chanson de Zélie au sujet de la femme. Alors maintenant, honneur aux femmes encore, place à elles, en cette journée internationale de la femme qui va se tenir dimanche 8 mars prochain. Et avant de nous quitter, je voudrais vous donner quelques informations importantes au sujet des journées de l'Église universelle de l'Église protestante unie à Nîmes, qui ont commencé d'ailleurs aujourd'hui avec une célébration pour tous et pour toutes. Et elles ont été préparées par des femmes nigérianes. Et cela se passait à l'Armée du Salut, aujourd'hui à 14h30. C'était donc le démarrage de ces journées de l'Église universelle qui se passent comme chaque année au mois de mars et qui sont organisées par les églises protestantes de Nîmes. Et puis le jeudi 12 mars à 12h, il y aura un repas africain qui sera à la Maison du Protestantisme à 12h. Et ensuite, le 21 mars, de 12h à 18h, à la Fraternité, il y aura toute une journée avec les enfants et les jeunes qui sont invités à découvrir la vie des chrétiens et chrétiennes du Nigeria. Alors la journée débutera par un pique-nique et se terminera avec le culte à 17h. Et puis vendredi 7 mars à 19h, une conférence de la pasteur Gertrude Kamge-Tokam, qui est pasteur dans la région parisienne. Elle donnera une conférence à la Maison du Protestantisme, donc à 19h. Et là encore, il s'agit des femmes, le défi des femmes africaines, une lecture du contexte du Nigeria. Donc Gertrude est et a été pasteur au Cameroun. Elle a été aumônier de prison à Yaoundé pendant 20 ans avant de venir s'installer en France, et elle y est depuis 3 ans après un parcours à l'université de Montpellier. Et voilà, elle est pasteur à Montargis, exactement. Vous aurez donc l'occasion de la rencontrer à la Maison du protestantisme et de discuter avec elle après la conférence qui aura lieu vendredi 27 mars à 19h donc. Et puis, ces journées se termineront le dimanche 29 mars, toujours à l'église de la Fraternité, rue Antoine Delon, le culte de l'église universelle, à 10h30, avec le pasteur et professeur Rodrigo de Souza. Voilà pour ce qui concerne les journées de l'église universelle. Et puis, un dernier mot pour vous informer d'une soirée caritative pour soutenir nos frères et sœurs en Christ ou pas, Madagascar, qui après le cyclone Guenazi est bien en peine et a besoin de vous. Il y a donc une soirée, un concert qui est prévu le 13 mars 2026 à 19h. En soutien aux victimes, ce sera au centre Saint-Exupéry à Caissargues, donc vendredi 13 mars, 19h. Il vous en coûtera 20€ comme participation pour soutenir les victimes de ce cyclone. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons passé toute une émission autour des femmes, et je vous invite à penser à elles et à faire œuvre aussi pour elles, chacun à votre manière, dimanche prochain, 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end avant cela, et je vous dis à la semaine prochaine.